On ne peut survivre sans l'esprit.
Êtes-vous là? Allez-vous agir?
Let's reconnect.
Y aurait-il une géométrie du réel?
Reconnect us to the Earth.
Bienvenue dans Géométrie du réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste.
Voilà, alors bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Géométrie du réel. Alors aujourd'hui, on reçoit Georgia Froman et Mathilde Charrier. Donc essentiellement pour le livre « Est-il écologique ?» paru aux éditions Wild Project. Bon, l'accent est peut-être pas super bien, mais bon. En tout cas, je vais vous laisser vous présenter. Alors Mathilde, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît succinctement ? On va commencer par toi.
Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, moi je suis Mathilde Charrier, je suis libraire au Rideau Rouge et également salariée de l'association pour l'écologie du livre qui comporte du coup deux salariés à mi-temps dont je fais partie. Et mon métier de libraire me permet de voir en temps réel, j'ai envie de dire, ce qui se passe voilà, dans le monde du livre et de pouvoir mettre du coup, essayer en tout cas de mettre à profit ce qu'on défend au sein de l'association dans la librairie. Donc du coup, de pouvoir essayer de tester certaines choses, de défendre, d'en défendre d'autres. Et voilà, donc du coup, je représente l'association lors de divers événements et dont on parlera un peu plus tard, je pense. Voilà.
D'accord, merci Mathilde. Alors Georgia, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Alors, merci pour l'invitation.
Après.
Je suis Georgia Froman, je suis éditrice aux éditions Wild Project. C'est une maison d'édition qui existe depuis 2008. Je suis arrivée en 2019, donc ça fait maintenant quelques années que je travaille dans cette structure. C'est une maison d'édition qui est spécialisée en écologie et donc qui a publié le manifeste « Le livre est-il écologique ?», qui est le manifeste de l'Association pour l'écologie du livre, notamment parmi beaucoup d'autres classiques de l'écologie et d'autres ouvrages contemporains. Et je suis également traductrice freelance. Je traduis du français vers l'anglais. Et donc, je fais partie de l'association depuis sa fondation. Je suis membre active et je fais partie notamment du pôle formation. Donc, on en parlera sans doute un peu plus tard. Mais comme Mathilde, j'interviens au nom de l'association dans différentes structures, voilà, selon les invitations.
Ok, super, merci beaucoup. Effectivement, donc alors, le livre est-il écologique? C'est le titre de ce manifeste dont vous venez toutes les deux de parler. Donc on va surtout se baser sur ce livre qui est un objet tout à fait sympathique et le contenu est vraiment très très intéressant. Il aborde plein de points, alors sur l'écologie du livre, sur la chaîne du livre, sur comment ça se passe depuis la pâte à papier jusqu'à la diffusion, la distribution, l'aspect aussi industriel du livre, hein, dont on parle très peu, ça n'a pas très bonne presse, il faut le dire, bien que les choses changent assez rapidement. Et puis, il y a effectivement ce que vous avez appelé des éco-fictions. Alors ça, j'aimerais bien qu'on en parle parce que je trouve que ça permet de proposer des perspectives, voilà, avec donc des petites histoires qui font, je sais pas, 5-10 pages et qui permettent de proposer des points de vue, d'évolution sur le livre dans 20, 30, 50 ans. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, Mathilde, je vais te proposer d'intervenir par rapport, justement, en premier sur la chaîne du livre, toi en tant que libraire. Et puis après, donc, on demandera à Georgia sur le côté un petit peu édition et puis aussi traduction, parce que donc finalement, c'est un autre aspect intéressant. Alors Mathilde, qu'est-ce que tu peux dire pour nos auditeurs, pour exposer déjà les grandes lignes de ce qu'est la chaîne du livre et les différents, différentes étapes, hein, vraiment en très gros. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Alors déjà, c'est intéressant que tu dises que le livre, juste pour revenir sur le livre, essaye d'être le plus complet possible dans un format pourtant qui est très court, parce que c'est un livre justement qui se veut vraiment le plus interprofessionnel possible, c'est-à-dire et le plus complet dans le sens de vraiment essayer de parler de tout ce qui concerne, nous, ce qu'on appelle l'écosystème du livre. Donc, pas forcément, on essaye de voir moins les choses en tant que chaîne, c'est-à-dire des éléments les uns après les autres, ce qui est plus, en fait, finalement, un produit vraiment du capitalisme industriel, donc vraiment les choses bout à bout, mais plus de voir le milieu du livre comme un écosystème et ce qui reprend, en fait, finalement, ce qui se passe dans les écosystèmes naturels, c'est-à-dire que chaque système est dépendant les uns des autres, et donc c'est un système d'interdépendance dont les membres du livre font partie. C'est-à-dire que on pourrait vivre l'un ou l'une sans l'autre, mais on choisit aussi de vivre les uns avec les autres, et donc comment en fait on peut essayer de s'articuler ensemble dans cette chaîne écosystème du livre. Et donc en effet, En tant que libraire, on voit bien que les interactions qu'on a sont le produit en fait de choses bien en amont, et pourtant tellement en amont qu'on en a parfois peu conscience. Nous, les relations qu'on a en fait le plus directement, c'est celles avec les lecteurs et les lectrices, qui sont d'ailleurs souvent oubliées dans l'écosystème du livre, mais qui sont pourtant les personnes qui quand même sont à qui sont destinés les livres. Et sinon, les relations les plus directes qu'on va avoir, ce sont en fait les relations avec les distributeurs ou les diffuseurs, qui sont en fait ceux qui vont nous proposer les livres, et qui pour nous les proposer font souvent partie de structures très importantes qui peuvent avoir les moyens d'exister. Donc, pour le dire très brièvement, quand on est éditeur ou éditrice, toi, ça tu dois le savoir, Lionel, c'est très compliqué de pouvoir exister sans toutes les structures qui sont faites pour pouvoir exister. Et ces structures qui sont faites pour pouvoir exister, c'est des structures qui demandent souvent beaucoup de moyens, qui ont du coup une force de frappe très importante. Et c'est pourquoi on retrouve en fait plus ou moins souvent, les mêmes éditeurs, les mêmes livres d'une librairie à une autre, avec évidemment des différences et des nuances, parce qu'en fait c'est plus facile pour le libraire de pouvoir, c'est un gain de temps de pouvoir travailler avec ces diffuseurs là par exemple, les groupes qui représentent Flammarion, Gallimard, qui sont d'ailleurs dans les mêmes groupes. Ah. Et c'est un gain de temps, et on sait que le temps,
petite coupure,
Mathilde,
tu nous as
rapide. Et donc
tu nous as
quitté. La plupart des libraires
sont là.
Tu vas
revenir.
Et
sinon peut-être.
Non.
Il y avait une coupure. Alors vas-y, on te reprend. Pas
pardon.
De soucis.
Et donc, ce qui questionne aussi la notion d'indépendance, donc de librairie indépendante, donc qui est toujours très difficile en fait à pouvoir défendre, étant donné que la plupart du système est fait pour qu'on travaille malheureusement de moins en moins avec des éditions indépendantes qui sont de plus en plus dures à capter ou à trouver. Ça demande énormément de temps, et pourtant c'est ce qui fait quand même qu'on arrive, et ça on en parlera je pense après avec Georgia, à une vraie bibliodiversité, qui est encore une notion qu'on reprend qui est conjointe à celle de la biodiversité et qui est très pertinente dans le domaine du livre. C'est de pouvoir défendre différentes voies. Or, c'est très difficile.
Alors, c'est très intéressant, Mathilde, ce que tu disais. Moi, en tant qu'éditeur, il y a une prise de conscience que j'ai eue assez rapidement, même avant, quand j'étais que auteur, entre guillemets. Et puisque maintenant, j'ajoute une ou deux casquettes même. C'était que, effectivement, les étals des libraires, enfin, les rayons des libraires ne sont pas extensibles. Or, et d'ailleurs souvent les locaux, même je veux dire la librairie du point de vue physique, c'est-à-dire la surface que vous avez est souvent restreinte, sauf pour les grandes librairies qui on se demande même si ce sont encore des libraires. Mais nous n'allons pas les citer, bien sûr. Bref. Et donc, j'ai connu évidemment plein de libraires. Quand j'étais rue du Commerce à Tours, j'avais deux, trois copains qui étaient libraires. Et alors, j'allais les voir. Alors, Stéphane Imaginaute, pour ne pas le citer, par exemple, son local est vraiment tout petit. Donc, il ne peut pas recevoir tous les éditeurs. C'est une il y a une raison vraiment matérielle, physique, concrète, qui fait que de toute façon, même s'il voulait prendre le petit éditeur là-bas, il pourrait prendre quelques livres et pas plus, et du coup, ce serait au détriment d'un autre. Et évidemment, il y a, comme tu le dis, les logiques économiques qui fait que, eh bien, les lecteurs viennent acheter ce qu'ils connaissent, et ils connaissent ce qui a été mis en avant, parce que ça a été mis en avant à cause d'un distributeur important qui lui-même a des logiques commerciales. Et donc, c'est là qu'on voit bien qu'à un moment donné, en fait, ça enrichit un certain cercle et qui fait que, bah, effectivement, quand nous, on est tout jeune éditeur aux éditions Alchimistes, hein, c'est que la cinquième année pour se faire une place dans le paysage éditorial et dans le paysage même des lecteurs en France, c'est compliqué. c'est vraiment compliqué. Oui, je te laisse intervenir, Mathilde.
Bah oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est pas un manque de volonté de la part des éditeurs, des éditrices ou des auteurs, des autrices et des libraires. C'est juste en fait que c'est vraiment un parcours de combattant des deux côtés pour que la rencontre puisse se faire et que c'est pour ça en fait qu'on retrouve, comme tu le dis, par manque de place et par manque aussi de temps, bah, souvent les mêmes livres qui reviennent. Et justement un petit exemple pour illustrer ce que tu disais, ce qui nous arrive très récemment à la librairie, c'est qu'on est en train de préparer la rentrée littéraire de septembre, à laquelle on ne peut pas, en fait, vraiment échapper, même si, bon, voilà, on essaye de trouver un peu des manières de faire exister différents titres. Et en fait, on a calculé exactement la place qu'on avait sur nos tables pour pouvoir, en fait, savoir à peu près combien de livres on pouvait recevoir. Et les choix sont drastiques, c'est affolant de se dire que parmi tout ce qu'on a là vu dans les catalogues, les présentations, etc., on ne va pouvoir garder qu'une infime partie, ce qui est normal, et en même temps, ça nous montre à quel point il y a complètement, encore une fois, une distorsion énorme entre ce qui est proposé et la réalité. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ça illustre complètement ce qui est en cours aujourd'hui dans le monde du livre, c'est qu'il y a une totale incompréhension de la part de ceux qui publient et de la part de ceux qui lisent de ce qui est possible d'absorber. Les lecteurs et lectrices ne peuvent pas mettre fin économiquement et même en termes de temps, ne sont pas capables d'acheter tout ce qui est produit. Voilà, et nous, on essaye de faire en fait cette balance-là. On va sûrement se tromper, on va sûrement faire des choix qui sont personnels. Et en plus, dans nos choix, les choix qu'on doit faire, on est obligé de compter ceux qu'on ne peut pas ne pas prendre. Et ceux qu'on ne peut pas ne pas prendre, c'est ceux qui vont avoir une énorme couverture médiatique, qui appartiennent souvent au groupe. Les médias appartiennent, souvent ceux qui publient ont aussi des médias qui en fait peuvent les mettre du coup devant de la scène. Et donc bref, tout ça fait qu'on doit un peu composer et tout ça questionne aussi notre notion d'indépendance, du coup.
Et oui, et l'influence et ce qui est proposé, la diversité, comme tu dis, la bibliodiversité, effectivement. Georgia, est-ce que tu veux intervenir sur ce sujet-là avant que j'aborde les grandes lignes de la chaîne du livre, parce que je voudrais quand même qu'on parle aussi du livre en tant qu'industrie, quoi. Le mot est lâché, waouh.
Oui, bien sûr, mais ces problèmes de surproduction et de bibliodiversité sont étroitement liés à l'industrie en tant que chaîne industrielle. C'est une industrie qui subit finalement les mêmes logiques industrielles, les mêmes logiques capitalistiques que beaucoup d'autres industries. Souvent, quand j'introduis le sujet lors d'une formation, je fais la comparaison avec la mode. Parce qu'on sait que H&M, par exemple, produit plusieurs collections par saison. Les vêtements qu'on voit en magasin changent en quelques semaines, alors qu'il y a 50 ans, on avait deux collections par an et basta. Donc, c'est similaire dans le monde du livre. On voit une explosion de l'offre Et souvent, les lecteurs et lectrices ne se rendent pas compte de ça, je pense, dans l'idée où le livre est un objet qui a une valeur symbolique très forte au sein de la culture. C'est forcément un objet vertueux. C'est aussi, d'un point de vue écologique, un objet qui est fabriqué en papier, qui est d'ailleurs un matériel assez vertueux aussi, de nature. Mais finalement, on voit effectivement cet effet de remplissage des tables de librairie, les offices qui sont de plus en plus importantes.
Attends, je te coupe, Georgia. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'office pour
le
public?
C'est, oui. Mathilde parlait des acteurs de la chaîne qu'on ne voit pas souvent. Et ces acteurs sont notamment des distributeurs et diffuseurs. Et donc, pour que les livres puissent partir, entre guillemets, des maisons d'édition et arriver par l'imprimeur à la librairie, il faut passer par la distribution. Et donc, pour faciliter à la fois la distribution et je pense peut-être aussi la médiatisation des livres, on a des dates fixes dans l'année où on sort nos parutions. Quand on parle d'office, c'est ça qu'on veut dire. Donc, en général, il y a 2 offices par mois. Si on regarde, en fait, l'histoire de l'édition en France depuis 40 ans environ, le nombre de nouveautés qu'on va sortir chaque année est de plus en plus important. Alors que le budget du livre dans le budget culture du français moyen ne suit pas, en fait, cette production. Donc, il y a forcément un manque de correspondance entre cette surproduction, entre cette production qui est en fait surproduction et la demande chez les lecteurs. Et donc, c'est lié à cette... On parle d'économie de l'offre, c'est créer de la demande en produisant de plus en plus d'offres. C'est ce qu'on voit avec les chaînes de télévision aussi, qui sont de plus en plus nombreuses. Sauf que, bon, ça a des effets néfastes à la fois pour les librairies qui n'arrivent pas à suivre cette production et également pour le paysage éditorial, effectivement, qui est dominé par 3 grands groupes qui ont les moyens, en effet, de produire à cette échelle industrielle. Et ces mêmes groupes appartiennent, eux, aux groupes qui sont des groupes médiatiques. Et donc, il y a un rapport qui fait que c'est ce qui est grand va devenir encore plus grand et ce qui produit beaucoup va produire encore plus aux dépens de l'édition et de la librairie indépendante. Et on peut en parler après, je pense, mais aussi potentiellement aux dépens de la chaîne du livre au niveau écologique.
Alors, c'est très intéressant, Georgia, ce que tu nous dis. Je vais, pour les auditeurs, redonner un point de vue plus général. C'est-à-dire que au départ, et vous le décrivez très bien dans le livre « Est-il écologique ?», donc je le répète aux éditions Wild Project, mon accent est pas très bon. le livre au départ, c'est de la pâte à papier qui est fabriquée à plusieurs endroits dans le monde, qui est assemblée dans des grandes usines, qui ensuite parfois est réexpédiée dans d'autres usines pour faire le papier tel que nous on le connaît. Ensuite, il fait encore parfois des milliers de kilomètres pour aller chez un autre imprimeur, une autre usine qui est souvent des imprimeurs, mais pas, qui ne font pas uniquement que ça. Mais enfin, vous compléterez si vous avez des informations plus précises à donner. Ensuite, donc, l'imprimeur imprime son livre et souvent, chose que on ne sait pas forcément, enfin que le public ne sait pas forcément, parce que ce n'est pas, il n'y a pas vraiment de reportage dessus. Tiens, d'ailleurs, ça c'est intéressant. Si vous avez des liens vers des reportages, ça pourrait être intéressant de les mettre dans la description. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais donc, les éditeurs parfois font imprimer les livres à plusieurs milliers de kilomètres. Voilà, donc nous, par exemple, aux éditions Alchimistes, pour pas nous... on se lance un peu des fleurs, mais bon, on imprime en France. Alors après, bon, imprimer en Italie, en Espagne, encore ça va, mais souvent, c'est plutôt Europe de l'Est, voire la Chine, voire plus loin, les États-Unis, etc. Donc, c'est imprimé là-bas. Ensuite, les allers-retours, c'est en bateau, je crois que c'est plutôt en bateau, en train. Ensuite, ça arrive en France, dans des grands hangars, chez le distributeur. Le distributeur, lui, envoie avec des semi-remorques et des camions, etc., dans toute la France, chez les libraires. Le libraire le met dans ses rayons. Ensuite, il le stocke quand il y a un turnover qui commence à se faire. Et c'est renvoyé ensuite... les invendus dans les mêmes hangars, les mêmes entrepôts, ça reste 3 à 5 ans environ, j'exagère, mais on va dire ça, et ensuite c'est emmené au pilon. Et donc, avec une étude du Basique de 2017, si je ne me trompe pas, c'était en 2017, donc c'était il y a déjà 8 ans, 6-7 ans, pardon, c'était 142 millions d'exemplaires par an, rien qu'en France. Donc si on imagine toute l'Europe, ça ne doit pas faire loin du milliard, donc vous imaginez la tonne de papier qui est détruite. Et alors le taux de transformation, de recyclage de ce papier, je ne le connais pas, mais le meilleur recyclage, c'est celui qui n'existe pas, parce que il y a les allers-retours, il y a le stockage, il y a l'aération des hangars, il y a l'électricité des hangars et le bilan carbone de tous ces allers-retours. Voilà, donc Georges, je te laisse intervenir une fois que j'ai donné ce tableau d'ensemble.
Oui, Georgia. Merci. Quand on parle en effet de recyclage, c'est comme tu dis, le meilleur recyclage, c'est celui qui n'a pas lieu. Je pense que quand on entend en fait tout ce qui est impliqué dans la chaîne du livre, qu'est-ce qu'il faut pour faire un livre? Il faut des fibres qui viennent des arbres. La production du papier utilise énormément d'eau et d'électricité. Ensuite, il y a les transports qui sont largement carbonés. Faire tout ça pour finalement pilonner un livre, c'est extrêmement dommage. Donc, si je peux parler de notre expérience aux éditions Wade Project.
Oui.
Donc, on est un éditeur indépendant. On limite notre production éditoriale, c'est un choix. On publie une dizaine de livres par an. Mais surtout, on fait des petits tirages. Donc, on essaie de travailler avec notre distributeur-diffuseur pour faire des tirages qui sont ajustés à la mise en place, c'est-à-dire le nombre de livres qui seront dans la librairie le jour de l'office. Donc, si on sait qu'il y a peut-être une mise en place de 1000, c'est-à-dire que les librairies partout en France, Belgique et Suisse ont commandé 1000 livres, on ne va pas imprimer en premier tirage plus de 1005 ou peut-être 2000 exemplaires. Alors nous, on est surtout éditeurs en sciences humaines, donc c'est pas les mêmes échelles que pour la fiction ou pour les best-sellers de polar, etc. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour éviter le pilon, donc notamment ajuster ses tirages. Quand on est dans une logique plus industrielle, plus à une échelle plus grande, par exemple, en faire des plus gros tirages, ça coûte moins cher. Et quand on fait imprimer ses livres à l'étranger, alors on ne peut pas avoir ses livres pour dans 3 semaines. Il faut attendre que ça arrive, que ce soit acheminé jusqu'en France. Alors que nous, éditions Wide Project, on imprime comme ta maison d'édition, Lionel, on imprime en France. Donc, si on a besoin de faire un deuxième tirage rapidement, on peut se permettre de le faire. Et donc, on suit de plus près la production. Et puis aussi, juste un petit mot sur le recyclage. Il y a un rapport du WWF par rapport au recyclage des livres en France qu'on peut mettre dans la description aussi si ça intéresse les gens qui écoutent. Mais globalement, ce que je peux dire à ce sujet, c'est que le recyclage des livres en France n'est pas optimisé. Donc, on a beaucoup d'usines en France qui produisent du carton. Donc, on aura tendance à recycler les livres soit en carton, soit à les incinérer directement, alors que c'est du papier graphique de qualité, surtout quand c'est des fibres vierges, c'est-à-dire du papier qui est utilisé pour la première fois. On pourrait les recycler encore en papier graphique plusieurs fois. Oui. Et donc, d'un point de vue de l'impact environnemental, c'est beaucoup plus vertueux. Donc, il y a du travail à faire de ce côté-là.
Oui, juste pour rebondir, pardon, sur ce que disait Georgia, je pense que là, faut vraiment pas avoir peur, comme on le disait, c'est vrai, c'est vraiment une logique industrielle cette logique industrielle-là prend en compte que c'est une logique qui prend en compte le déchet, en fait, vraiment. Enfin, ça fait partie de cette production de se dire qu'il y aura forcément des déchets et les grands groupes ont, quand ils planifient en fait leur sortie, il y a une marge, enfin c'est même prévu que ça va leur coûter moins cher de pilonner. Donc pilonner, oui. J'espère que ce terme, c'est pilonner, c'est détruire les livres. C'est quelque chose qui est encore aujourd'hui très tabou en fait dans l'écosystème du livre. Alors c'est quelque chose qui fait complètement partie de celui-ci et qui est pris en compte pour la plupart des grands groupes. Et donc cette logique-là, elle est taboue parce que elle touche au fait qu'on n'accepte pas que le livre soit un produit marchand. On est encore dans quelque chose de complètement produit culturel, ce qui est aussi le cas. C'est un objet culturel. C'est un objet de savoir. Et c'est pour ça que nous, du coup, à l'association, on parle des trois écologies du livre et donc notamment cette écologie symbolique. Le livre a une valeur qui fait qu'il transmet des informations, il transmet des savoirs et qu'il n'est pas un produit comme un autre. Mais force est de constater qu'il est, que du coup, il est quand même... du coup, il peut se passer d'avoir des mesures pour être recyclé comme les autres produits qui sont issus de matières premières. Le livre, c'est le seul objet qui est fait de papier et qui, sa couverture, ou en tout cas dans l'objet en lui-même, n'a aucune indication pour être recyclé. Parce qu'on ne peut pas concevoir, et je ne sais pas si c'est bien ou pas, hein, mais on ne peut pas concevoir de jeter un livre à la poubelle. Sauf que c'est un produit qui est fait de papier. Donc, on pourrait en fait avoir cette indication-là. Mais comme il est toujours dans cette tension entre objet culturel et objet marchand, eh ben en fait, il passe un peu entre les lignes, entre toutes les lignes. Et donc, il n'y a aucune mesure qui est prise des deux côtés pour pouvoir avoir une vraie politique là-dessus. Et alors, juste pour rebondir aussi sur le fait, en France, c'est vraiment particulier, je pense, ce système de pilonnage. Par exemple, en Allemagne, c'est quelque chose qui ne se passe pas du tout de la même manière. Donc, il y a vraiment des différences culturelles, des différences aussi d'appréhender l'objet en tant que tel. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de voir ce qui se fait ailleurs et de voir comment, en fait, c'est quand même assez dramatique de se dire qu'on a tellement de production qu'on en est à le détruire, alors qu'il y a des pays où il n'y a même pas de livres. C'est quand même se dire qu'on en est venu à une économie de telle abondance qu'on ne sait même plus quoi faire de celle-ci, quoi.
Et alors, ce qui est d'autant plus remarquable, notable, c'est que effectivement, d'un côté, il y a une pudeur, de l'autre côté, dans la réalité des faits, les industriels, ceux qui produisent et distribuent, etc., et donc détruisent ces livres-là, font tout pour que ce soit pas su. Et voilà, il y a une espèce d'hypocrisie. En tout cas, c'est mon point de vue. Alors après, il y a quelque chose aussi à voir, c'est que il y a toute la question de la qualité du papier. Hein, je vois qu'à la fin, vous avez mis imprimé sur du papier Rebecca Bulk, Claire Book, ce qu'on appelle Claire Fontaine pour le grand public, donc avec des fibres vierges provenant des forêts certifiées, etc. Donc, il y a tout cet aspect-là, mais en même temps, effectivement, comme tu dis, et ça, c'est une remarque vraiment très pertinente, c'est marqué nulle part, vous pouvez recycler ce livre en faisant ceci ou cela, comme s'il y avait une espèce de d'interdit, Bon, alors évidemment, en général, on ne le jette pas, le livre, on le donne à une bibliothèque, on le donne à un copain, on le fait circuler, bon, voilà. Et c'est bien, et tant mieux. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est que les industriels, eux, et alors là, bon, je ne vais pas forcément me faire des copains, mais c'est comme ça, comme tu le dis, qu'ils calculent, c'est-à-dire que ça fait partie de cette idée, c'est-à-dire, bon, ben voilà, il y a un auteur qui marche plus ou moins bien, allez, on va tirer, je ne sais pas, et encore, je suis gentil, 10 000, 15 000 exemplaires, alors ça dépend de qui on parle, hein, évidemment, mais sinon, ça peut être beaucoup plus, hein, 200 000, voilà, etc. Et puis, s'ils en détruisent 10 000 sur 200 000, je veux dire, c'est pas grave. Alors que 10 000, c'est, je sais pas, vous imaginez un magasin Carrefour, vous le remplissez, vous le tapissez tout du long, et ben sur 1,50 m, ça fait à peu près cette grosseur-là de livre. Enfin bon, voilà, c'est des choses qui sont, on se rend pas tellement compte. Voilà. Bon, pour cette question-là, après, ben justement, l'association pour l'écologie du livre que j'ai découverte complètement par hasard, que je vais mettre le lien dans la description, laquelle de vous deux veut se lancer sur le sujet qu'est-ce que vous proposez? Enfin, alors, Georgia, peut-être, tu parlais de formation que vous proposez. À qui vous les proposez? Quelle formation vous proposez? Quel est le but de l'association pour l'écologie du livre? Georgia.
Alors, je vais peut-être laisser Mathilde parler de l'association en général, ses objectifs. Et puis après, je peux parler des formations, si tu veux.
Ok, Mathilde, alors.
Du coup, je reprends la parole. Non, alors justement, tu disais que tu étais tombée par hasard sur l'association. Et au début aussi, tu disais que le livre t'avait beaucoup marqué. Et juste pour commencer, je pense que c'est quelque chose qu'il est important de souligner. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint l'association et qui y ont adhéré via le livre, en fait. Parce que ce livre, ce tout petit livre, a permis de mettre en fait le doigt sur beaucoup de choses que beaucoup de personnes ressentent et vivent au sein de la chaîne du livre et qui justement ne sont pas forcément explicitées ou au sein de rapports un peu plus complexes. Et ce livre-là, c'est encore aujourd'hui, enfin ça fait 3 ans qu'il a été publié. Et en fait,
2020.
2020, oui, voilà. Et donc ça fait 3 ans que, enfin qu'on a encore des personnes qui nous disent qu'elles ont découvert l'association grâce à ce livre. Donc ce livre est important encore à publier. et donc l'association, en fait, elle a été créée vraiment pour essayer de rassembler des personnes qui avaient le même malaise entre guillemets ressenti de ce qui se passait actuellement dans la chaîne du livre et d'essayer de voir en fait ce qui pouvait être fait de manière différente sans vouloir trouver des solutions et dire aujourd'hui on peut faire autrement complètement. C'est plus de dire qu'est-ce qui est fait aujourd'hui et qu'est-ce qui dysfonctionne, car en fait tout le monde est d'accord pour dire que ça dysfonctionne, et comment on peut essayer collectivement de pouvoir tenter de voir, donc de faire plutôt des analyses, de produire du coup du contenu, pouvoir comment les choses se font, comment les choses se passent. Comme ce que tu disais tout à l'heure, un peu cette opacité par exemple sur le pilon, de voir si nous en tant qu'adhérents et qu'adhérentes, on peut essayer d'aller un peu plus loin, donc en fait de produire de la recherche et de la production de contenu. C'est pour ça que l'association, en fait, au début, elle s'est vraiment constituée avec des pôles et qui ont essayé de se mettre autour de grandes questions qui étaient autour, justement, par exemple, de la bibliodiversité, de la fabrication, de la circulation du livre. Et autour de ces grandes questions, les personnes ont essayé de travailler pour voir en fait ce qui se faisait actuellement, mais ce qui se faisait aussi actuellement différemment. Et donc, force est de constater que beaucoup, beaucoup de choses se font différemment. Comme Georgia le disait aussi avec les éditions Well Project ou d'autres maisons, et que des alternatives existent, sauf qu'elles sont pas forcément mises en lumière, et surtout c'est dur en fait de pouvoir les pérenniser. Donc l'association, elle rassemble un peu ces personnes qui veulent en tout cas mettre à jour ces questions-là, et également elle fait de la sensibilisation. Donc ça, Georgia peut-être pourra en parler un peu plus, bien qu'on le fasse ensemble, mais du coup de la sensibilisation, c'est l'idée de pouvoir en fait juste faire ce qu'on est en train de faire là actuellement. C'est pas forcément dire il y a quelque chose qui se fait bien, quelque chose qui se fait mal, mais plus de dire, en fait, aujourd'hui, pour les formations des personnes qui se destinent à travailler dans le monde du livre, on apprend une certaine manière de fonctionner, qui est la manière de fonctionner la plus courante, parce que celle qui est issue de l'industrie du livre, etc. Mais c'est possible de réfléchir, en fait, autrement. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que tout le monde, encore une fois, est conscient que les choses se passent de manière assez dysfonctionnelle, mais on n'agit pas forcément là-dessus. Donc nous, il y a vraiment ces axes-là, à la fois de pouvoir sensibiliser, faire de la recherche, et en même temps de voir comment agir différemment. Donc c'est ce qu'on appelle en fait un peu de la recherche-action, et je rajouterai sensibilisation, ce qui fait que on ne cherche pas en fait à faire on fait du plaidoyer, mais pas du plaidoyer qui cherche à intervenir à peu près partout. C'est plutôt en fait via le livre, ou via après des formations qu'on donne, que les personnes vont venir vers nous et nous dire moi aussi en tant qu'éditeur ou éditrice j'ai ressenti ça, comment je peux m'investir, comment en fait je peux essayer de trouver des solutions, etc. Et donc l'association est aussi étant donné qu'on a de plus en plus de monde qui nous rejoint, est aussi un très bon moyen de mettre en contact des personnes qui ont vécu les mêmes choses et qui aujourd'hui discutent. Et ça, j'insiste énormément, partout en France. L'association, en tant que salariés de l'association, on est à Paris, mais elle existe partout en France. Georgia est dans le sud-est, vers Marseille, et il y a vraiment des pôles en fait régionaux. Et ça aussi, c'est très important, c'est qu'on travaille vraiment avec les personnes qui sont sur tous les territoires partout, notamment les ARL, pour essayer vraiment de voir comment on peut toucher le plus de monde possible et répondre. Et ça, c'est le plus important aussi au questionnement des personnes un peu partout. Parce que les questionnements, ils ne sont pas que à Paris, ils sont partout. Mmh. Et les réalités du livre, elles sont aussi différentes en fonction des territoires. Et il y a des choses extrêmement intéressantes, justement, qui se font souvent pas à Paris.
Et donc, c'est vraiment interprofessionnel.
Oui, alors l'idée, c'est vraiment, merci d'insister là-dessus, c'est vraiment une association qui se veut interprofessionnelle, c'est-à-dire qu'on a aussi bien des libraires que des éditeurs et des éditrices, des auteurs, des autrices, des diffuseurs et des diffuseuses. Alors aujourd'hui, ce qui nous manque un peu, c'est la partie justement vraiment en amont de la fabrication. On a peu de, même de la fabrication, on a peu d'imprimeurs, on a peu de forestiers ou forestières, on a peu de personnes qui sont vraiment dans l'objet matériel du livre. Et c'est quelque chose qui va venir, je pense, au fur et à mesure. Mmh. Mais en tout cas, il y a des vraies discussions qui sont extrêmement intéressantes entre... on a même des personnes qui viennent d'institutions. Voilà, entre des personnes qui sont dans le milieu du livre, mais à différents niveaux, et qui pourtant se retrouvent dans ces questionnements-là et sont convaincues qu'il y a des choses à faire ensemble.
Georgia, tu voulais intervenir?
Oui, justement, je voulais insister sur cet aspect interprofessionnel. Je pense que c'est très important parce qu'un des dysfonctionnements de la chaîne du livre, tout à l'heure, on a parlé de la concentration des maisons d'édition et des distributeurs, mais un autre dysfonctionnement, c'est l'atomisation de la chaîne. C'est-à-dire que les acteurs et actrices, on ne se parle pas entre nous. Quand on a un imprimeur qui est en Chine, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une relation que quand son imprimeur est en France ou même en Italie. Et aussi, par rapport à la relation entre éditeur et libraire. Pour moi, en tant qu'éditrice, faire partie de cette association et échanger avec des libraires comme Mathilde, ça a vraiment ouvert mes yeux à ces problématiques de surproduction et aussi des problématiques de bibliodiversité. C'est-à-dire le fait que les libraires subissent quelque part une pression pour mettre en avant certains titres parce que ce sont des titres qui se vendent bien.
Est-ce que tu peux expliquer pourquoi
peut-être que Mathilde peut m'aider sur ce point, mais c'est-à-dire que la librairie, c'est aussi une entreprise. Donc, il faut vendre des livres afin de garder les portes ouvertes et les salaires payés. Il y a un rapport qui n'est pas le même entre les grandes structures de distribution et les autres. Donc, peut-être que Mathilde peut en parler.
Alors, avant que tu interviennes, Mathilde, justement, je voulais préciser une chose que tout à l'heure, je crois, on n'a pas forcément clarifié. C'est le fait que quand on imprime beaucoup, enfin, quand l'éditeur demande à l'imprimeur d'imprimer un certain nombre, les coûts de fabrication deviennent plus bas. Plus on imprime beaucoup, plus les coûts de fabrication sont bas. Et c'est là que tout le fonctionnement découle. C'est-à-dire que si on se dit on va parier sur tel auteur, ou alors on a même un auteur qui est déjà connu, on va imprimer beaucoup parce que ce coût de fabrication va être bas et il coûtera moins cher de détruire plutôt que d'avoir trop de stock. Enfin, voilà. Et Georgia, tu voulais intervenir parce que c'est important pour la suite à comprendre. Ouais. Ah, ton micro. Ton micro, Georgia. Ouais.
Ah oui, merci. Ben, c'est très important de savoir ça. Et aussi, quand je parlais du fait que l'association est interprofessionnelle, c'est aussi ce qui la distingue des structures, des différents syndicats professionnels. Par exemple, il y a le SNE, le Syndicat National de l'Édition, qui travaille lui aussi. Sur ces questions de surproduction, de pilons, des choses comme ça, mais qui le fait uniquement du point de vue de l'édition. Et donc, on ne va pas aborder les choses de la même façon. Et d'ailleurs, je pense que c'est une approche où on peut plus facilement se tromper aussi, parce qu'on n'a pas le point de vue des autres acteurs. Il y a aussi, par exemple, un groupe de travail chez l'ABF, l'Association des bibliothécaires de France. Mais encore une fois, c'est quand on n'est qu'entre gens qui partagent le même métier, le regard est limité.
Oui, tout à fait. Mathilde, tu voulais intervenir pour nous parler de l'office, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de, à mon avis, vraiment important, quoi.
Oui, bah pour rebondir sur ce que disait Georgia, en effet, il y a c'est toujours cette tension dont on parlait entre cette obligation d'avoir certains titres et de l'autre côté de cette volonté de défendre d'autres titres qu'on a vraiment envie de défendre. Et d'ailleurs, je pense que on se rend pas compte à quel point justement en tant que libraire, on a une pression, mais on a aussi une énorme liberté de pouvoir en fait faire autrement et de pouvoir défendre des choses qui ne sont pas forcément imposées, dans le sens où quand je dis imposées, c'est pas qu'on nous oblige à les avoir, que le représentant vient et nous dit ça, vous avez pas le choix de l'avoir. C'est juste, oui, mais c'est juste qu'en fait, cette pression-là, elle est de fait parce que les personnes vont entendre ces auteurs ou ces autrices-là un peu partout. Il va y avoir des campagnes d'affichage, très importantes. Donc, de fait, en fait, on va être obligé d'avoir ces titres-là. Or, force est de constater que quand on lit un livre, quand on l'aime en tant que libraire, et bien ce livre-là peut avoir une super vie après et être vraiment défendu. Et ça, c'est un peu le truc magique. Et je pense que c'est pareil pour une bibliothécaire, enfin un bibliothécaire aussi, mais c'est que en fait de retrouver ce rapport très très simple et très premier avec un livre, parce que on l'a aimé au-delà des considérations économiques qu'il peut avoir ou de succès, etc., et de pouvoir le transmettre, c'est ça qui fait vraiment la force de ce métier-là et de la transmission. Et c'est ça que, du coup, pour moi, l'édition indépendante essaye de valoriser, c'est de se dire, de défendre auprès de ceux qui vont vendre ensuite son livre, de dire pourquoi, en fait, ce livre est important et parce qu'il y a des livres importants. Alors après, l'idée de l'association, et même à titre individuel, enfin, Georgia sera d'accord avec moi, je pense, ce n'est pas de dire qu'il y a des bons livres et des mauvais livres, que l'édition indépendante est forcément géniale et que l'édition, les grands groupes font des livres qui ne sont pas bien. C'est absolument pas le cas. C'est juste, et ça c'est vraiment, j'insiste là-dessus, une des missions de l'association, c'est de juste sensibiliser, de dire voilà comment ça se passe aujourd'hui. On vous, sans être moralisateur ou prendre les gens pour des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, mais en fait, c'est juste d'essayer de dire voilà ce qui se passe aujourd'hui et après, libre à tout le monde de faire les meilleurs choix en connaissance de cause. Ce n'est absolument pas de dire de condamner une personne parce qu'elle a acheté un livre qui appartient à l'Empire Bolloré. C'est absolument pas le cas. Nous-mêmes, c'est quand on aime la littérature, de toute façon, on n'a pas le choix de lire des livres qui sont imprimés dans tel pays, qui sont c'est comme ça. Mais c'est de dire tiens, est-ce que par exemple, et ça je le dis en tant que libraire pourtant de livres neufs, ce livre qui a été produit à des millions d'exemplaires, est-ce que j'ai besoin de l'acheter en librairie neuf ou est-ce que je peux pas le retrouver par exemple en bibliothèque, dans une boîte à livres ? Et d'où aussi un vrai questionnement sur la circulation du livre. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement importante, c'est de se dire à un moment donné on a une production qui est telle, et Georgia faisait un très intéressant parallèle avec la mode, on a une production qui est telle qu'on a en fait assez, enfin en soi, on peut, il n'y a pas de souci, on peut lire, on peut s'habiller, on peut manger, enfin tout va bien. Et donc du coup, qu'est-ce qu'aujourd'hui on remet de neuf sur le marché qui vaut vraiment, entre guillemets, la peine d'être là? Et c'est pour ça qu'on fait aussi une grande distinction entre le livre de création et le livre de reproduction, qui sont deux notions, à mon avis, extrêmement importantes, étant donné que le livre de création, c'est un livre qui est fait parce qu'il a une sorte... sans sacraliser non plus ce qui est fait, mais il a une sorte d'inédité. Enfin, c'est quelque chose qui est inédit, qui parle d'un sujet qui n'avait pas forcément été abordé, qui a une vraie valeur, entre guillemets, de création. Le livre de reproduction, c'est un livre qui va être fait parce que le livre de création aura fonctionné. Par exemple, aujourd'hui, rien que dans l'écologie, les thèmes abordés, on peut revoir des livres qui abordent les mêmes thèmes sur des centaines de maisons d'édition parce qu'un livre à la base avait fonctionné. Et donc, les maisons d'édition qui fonctionnent sur cette logique-là de livres de reproduction vont se dire c'est hyper intéressant d'aller à la rencontre des oiseaux, je ne sais pas où, et donc je vais aussi faire un livre là-dessus. Et en fait, du coup, déjà, ça perd le lecteur, ça perd le libraire qui ne sait plus vraiment quoi choisir, au lieu de se dire est-ce que ce livre-là était utile encore à refaire ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait, outre qu'une logique économique ? Sauf que ces livres de reproduction vont avoir, comme ils vont être faits souvent par des plus grands groupes, vont avoir une force de frappe qui est bien plus grande et vont parfois, du coup, rendre bien moins visible ceux de création.
Ça crée une espèce de brouillard, en fait.
Exactement. Et c'est même... moi, je trouve c'est pour ça que l'association est aussi intéressante là-dessus. C'est de faire aussi prendre conscience de la dimension psychologique, autour de notre rapport au livre. Le livre, ça nécessite un temps long de lecture, un temps long pour l'avoir, etc. Sauf qu'on est quand même dans une société qui va extrêmement vite, où on doit tout avoir très rapidement. On doit avoir le livre au bout de 2-3 jours, on considère même plus qu'on puisse attendre. Sauf que le temps de lecture, c'est un temps qui a besoin d'être absorbé. Et le livre est incompatible quasiment avec cette société de la vitesse et cette société de production effrénée. Donc il y a encore une fois là un énorme décalage.
Georgia ?
Oui, tout à fait. Mais un autre exemple, un exemple concret en fait de cette distinction entre livre... Un exemple concret de cette distinction entre livre de production et livre de création, J'ai échangé, alors les éditions White Project, on est basé à Marseille. J'ai échangé avec une librairie à Aubagne qui a arrêté d'alimenter son rayon pratique, notamment sur certains types de titres. Par exemple, la libraire, elle m'a dit pourquoi j'aurais besoin d'une énième livre sur la cuisine japonaise. Alors qu'il y en a déjà qui sont très bien, qui sont de grande qualité, mais on en sort à nouveau tous les ans. Et ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas faire quelque chose de créatif avec ce thème, mais elle a constaté, elle, que c'était la même chose encore et encore, que les livres n'étaient pas vraiment différents entre eux. Et donc, elle a fait le choix, c'était un choix engagé, de limiter les nouveautés dans cette partie de son rayon pratique. Après, ce qui est difficile au niveau symbolique, c'est que on ne peut pas toujours dire qu'un livre en vaut un autre. Et comme disait Mathilde, dans la littérature, oui, enfin, on va acheter des livres de Gallimard parce que les grands noms, enfin, les classiques qu'on a envie de lire sont là-dedans. Après, quand c'est des livres de fond et non pas des nouveautés, effectivement, on peut s'appuyer plus sur les livres d'occasion. On peut emprunter des livres à ses amis. On peut surtout se rendre en bibliothèque. Ça va aussi pour d'autres types de médias comme des films. En DVD, etc. Et donc voilà, pour cette distinction création-reproduction. Et la reproduction, ça contribue également à limiter la bibliodiversité. Parce que pour faire un livre de création, il faut vraiment faire un pari qui, parfois, quand on est éditeur ou éditrice, c'est risqué. Et c'est du travail de débusquer des auteurs et des autrices. C'est beaucoup de travail. Lionel, tu connais très bien. Ouais. Et c'est du travail, c'est du risque. Et c'est aussi la tentation de la traduction. Souvent aussi, nous, éditions White Project, on a traduit beaucoup des livres de l'anglais américain parce qu'il y avait beaucoup de classiques de l'écologie qu'on s'est engagé à traduire. À l'époque, c'était ce qu'il fallait faire. Parce que les conversations autour des pensées de l'écologie en France, à l'époque, étaient naissantes. Et donc, il fallait de la matière. Alors qu'aujourd'hui, ça s'est dispersé. Et donc, maintenant, on veut se tourner vers des paris en tant qu'auteur princeps et en tant que traduction qui sont peut-être plus risqués pour apporter autre chose à cette conversation en dehors de ce qui existe déjà. Mais on pourrait continuer juste à traduire les best-sellers étrangers et ça marcherait très bien. Donc, c'est une question qu'on se pose, des questions légitimes en tant qu'éditeur.
Alors, ça veut dire aussi que donc à chaque niveau de la chaîne du livre, depuis la forêt qui est exploitée, à celui qui produit la pâte à papier, à l'imprimeur, au distributeur, au libraire, sans oublier évidemment l'auteur, l'éditeur et le diffuseur, eh ben, chacun essaye de survivre économiquement dans cette course en avant, hein, qui est complètement dingue hein, quand on y pense, où la surproduction est... Parce que tout à l'heure, on a survolé l'histoire de l'Office. Je complète légèrement quand même la parenthèse pour dire que ça vous arrive quand même d'avoir de l'Office forcé. Que par exemple, tu me compléteras Mathilde, mais la rentrée littéraire est quand même un truc, excusez-moi, je vais parler crûment, mais un truc de dingo, quoi. Hein, où il y a des... Je sais pas combien... c'est combien de titres? Ça se compte en centaines, non, Mathilde?
C'est de 400 à 600 titres selon les années qui sortent en l'espace d'un mois.
Voilà.
Et aujourd'hui, il y a deux rentrées littéraires, en fait, parce qu'une ne suffisait pas. Donc, il y a celle de septembre et celle de janvier. Et celle de janvier est quasiment plus importante aujourd'hui que celle de septembre, ce qui fait que c'est des cadences quand même extrêmement importantes. Et Surtout que maintenant, moi, je vois des stratégies de petits éditeurs, éditrices indépendants que je trouve très intéressant, c'est de ne pas sortir surtout leurs livres à ces moments-là. En fait, ces rentrées littéraires-là, c'est des enjeux énormes pour les grands groupes. Enfin, des enjeux énormes. En fait, les titres qu'on va retrouver dans ces rentrées littéraires, surtout celles de septembre, c'est des auteurs et des autrices qu'on connaît, qu'on attend. Voilà, ça va être la Mélotombe, etc. Donc, c'est des enjeux plutôt commerciaux. Je ne dévalise pas encore hein, la matière littéraire.
Non, non, voilà.
Mais c'est pas des enjeux, qui vont prendre beaucoup de risques. Et ceux où ils vont prendre plus de risques, ça va être dans les périodes plus creuses, plus un peu le ventre mou de l'année. Donc, par exemple, on voit que sur des éditions vraiment indépendantes qui sortent moins de titres, ils vont sortir peut-être un titre à la rentrée littéraire. Et puis, ils vont saccader ça. Par exemple, les éditions Corti sortent un titre en septembre, mais ils vont en sortir d'autres dans l'année où on aura le temps de discuter avec eux de ce titre-là, de prendre le temps de l'absorber. Aujourd'hui, là, c'est vraiment... Enfin, en fait, oui, voilà, c'est du travail commercial qu'on fait pour moi lors des rentrées littéraires. Et pourtant, il y a aussi des livres, ce qui n'empêche pas d'être aussi excité, parce qu'on voit certains titres où on se dit bah, c'est super, et il y a des auteurs qu'on adore, qu'on retrouve, et voilà. Mais c'est aussi, là pour le libraire, c'est environ... et encore nous, comme je disais, on a fait des choix assez drastiques, mais c'est environ une trentaine de livres à lire là avant la rentrée de septembre, donc c'est énorme aussi.
Parce que tu les lis.
Oui.
Là, je vais me faire des copains, là, encore. Non, mais c'est vrai, soyons honnêtes, il y en a plein qui ne le lisent pas.
Oui, il y en a plein qui ne lisent pas, parce que aussi, en fait, ce n'est pas possible. Enfin, en fait, il y a aussi un manque. Et parce qu'on est obligé de faire des choix en tant que libraire entre ce qu'on n'a pas besoin de lire parce que ça n'a pas besoin de nous, mais qu'on a des fois aussi envie de lire, mais du coup, on fait l'impasse là-dessus. Ce qu'on va lire en diagonale. Après, bon, chaque libraire fait vraiment différemment. Mais, et puis, il y a des livres aussi qu'on ne pourra pas lire. Et là, je trouve que c'est le plus dur, justement, c'est de voir des livres d'éditeurs ou d'éditrices qu'on aime beaucoup, où on sait que c'est très bien. Et en fait, on pourra pas les lire. Et on va les voir arriver à la librairie, ne pas forcément être défendus parce qu'on n'aura pas eu le temps de les lire, et les voir repartir, donc, ce qu'on appelle les retours, c'est-à-dire qu'un livre ne peut pas rester toujours en librairie, donc s'il n'a pas été vendu au bout d'un certain temps, on le retourne à l'éditeur, c'est ce dont on parlait, et l'éditeur fait le choix de le garder soit en stock, ce qui pèse aussi chez lui en termes de place, de trésorerie, etc., ou soit de le pilonner, donc de le détruire. À savoir,
j'interviens, il ne retourne pas chez l'éditeur, il retourne chez le distributeur.
Oui, complètement, c'est vrai, tu as complètement raison. Oui, mais là, je faisais un petit raccourci.
Donc dans un hangar, pour les gens, en fait, ça veut dire que vous le remettez dans un carton, il y a un camion qui vient, le carton va dans le camion va dans un entrepôt plus ou moins grand, parfois c'est même des granges. Nous, on est en Touraine, je sais qu'ici, il y avait des granges qui étaient utilisées pour... parce qu'il y a certaines vieilles granges avec une hygrométrie assez stable, et donc il y a des cartons parfois au milieu de la paille, et je vous jure, c'est vrai. Mais bon, la plupart du temps, c'est dans des hangars avec, je sais pas, une température stable, une hygrométrie stable, pour pas que les livres gondolent, pour pas que le papier gondole. Donc ça coûte un pognon de dingue. C'est des emplacements qui sont dédiés, et donc que l'éditeur paye au distributeur, et puis au bout d'un certain temps, comme je disais, c'est pilonné, soit c'est revendu en masse, parfois au kilo, à des gens qui vont ensuite le revendre, par exemple, je pense à Noz ou des enchaînes comme ça. Voilà.
Et
des
enchaînes comme ça. Georgia, avant que tu prennes la parole, mais c'est vrai que par exemple, un livre de poche, quand on le retourne, il est systématiquement pilonné. Ça, il faut le savoir. Donc en fait, c'est.
Ah oui, je ne savais pas ça, tiens.
Et en fait, c'est pas. C'est pour ça que c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est très dur comme métier, libraire, parce qu'en fait, les choix qu'on va faire, on sait qu'on ne pourra pas tout vendre, on sait qu'on ne pourra pas tout garder. Et quand c'est des livres de création qui ont mis beaucoup de temps à devenir de vrais écrivains, de vraies écrivaines, enfin vraiment avec vraiment cet acte-là, et ben de voir que en fait moi j'appelle ça un peu les camps de vacances, de voir qu'ils passent quelques mois chez nous et qu'ensuite ben en fait ils repartent, c'est hyper dur, parce que on sait que ces livres là font partie vraiment d'un patrimoine pour moi littéraire français, font partie de la bibliodiversité, apportent quelque chose en fait, et font ce que la littérature doit faire, enfin nous ouvrir, parler d'autres choses, de ce qu'on connaît, bref. Georgia, pardon, tu voulais...
Oui, juste un mot par rapport au point de vue de l'éditeur. Donc, pour être clair, effectivement, les retours qui viennent des librairies repartent chez notre distributeur.
Ton micro.
Les retours qui... Pardon. Les retours qui viennent des librairies repartent chez notre distributeur, dans le hangar, etc., où on paye pour le stockage. Mais il y a aussi des coûts de manutention. Donc, oui. Pour chaque livre qui est manipulé, on doit payer. C'est quelques centimes, mais quand on parle des milliers de livres, c'est beaucoup. Et donc, il y a des choix qu'on peut faire en tant qu'éditeur pour minimiser le gâchis. Donc, nous, Éditions Wide Project, nos retours sont triés. Et ça veut dire qu'on va trier les livres qui sont toujours en suffisamment en bon état pour repartir en librairie après, selon les commandes ou les demandes, et les livres qui sont écornés ou qui ont des taches. Et ces livres-là, en général, partent au pilon. Alors que, en fait, du moment où on achète un livre, c'est comme les voitures neuves. Dès qu'on quitte le parking, ce n'est plus une voiture neuve. C'est pareil pour les livres. Quand on achète en librairie, ça n'empêche absolument pas une bonne lecture du livre, le fait qu'il y a une petite égratignure. Mais c'est comme ça. Et donc,
tout à fait.
Parce qu'on est une maison artisanale, en général, on reçoit nos défraîchis, donc les retours ruinés, dans nos bureaux, on les trie nous, et soit on les offre, soit on les vend, parce que finalement, si c'est un tout petit truc écorné, finalement, personne ne remarquerait ça. Mais c'est les normes, en fait, en librairie qui font ça. Lionel, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, je voulais intervenir sur le fait que nous, aux Éditions L'Alchimiste, on a choisi un chemin encore différent. C'est celui... Alors, effectivement, on fait du très court tirage pour certains titres et dans certaines conditions, c'est-à-dire, par exemple, pour les grosses dédicaces, les salons d'auteurs, etc. Donc là, on passe par du très court tirage. Mais vraiment, là, on parle de 50, 100, 150 exemplaires. Pas beaucoup plus, tu vois. Et le reste du temps... On est en impression à la demande, en combo entre Lightning Source France et Hachette. Donc, ce qui permet, via Hachette, la distribution Hachette, qui appartient, alors là, c'est un clin d'œil et assez amusant, parce que ça appartient à un énorme groupe, je ne sais plus lequel, mais c'est Lagardère ou pas, Hachette, je ne sais plus.
Je crois que c'est le groupe Hachette, mais à vérifier.
D'accord, ok. Et donc, en tout cas, voilà, donc ça permet une distribution, c'est-à-dire la mise en disponibilité théorique du titre chez les libraires, hein, à peu près partout, parce que quasiment tout le monde a un compte Hachette pour les raisons qu'on sait, parce que c'est un mastodonte. Et en même temps, on évite le retour d'un vendu, on évite le pilon, mais on a une autre difficulté, c'est le fait que, effectivement, on renonce quasiment de fait à avoir une place dans une place physique, en tout cas, dans les librairies. Donc, on mise surtout sur le virtuel et sur le bouche à oreille pour aller vendre, pour que les livres soient vendus. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que j'ai étudié les statistiques il y a quelques mois et je me suis rendu compte que c'était 60-40. C'est-à-dire qu'il y avait un peu moins d'ailleurs, même je crois que c'est 55, 65, bref, il y avait beaucoup de ventes par Internet, majoritairement, mais il y en avait aussi pas mal chez les libraires. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui nous connaissent par, je ne sais pas, X ou Y moyen, et qui vont chez leur libraire, bonjour, est-ce que vous avez tel titre ? Non. D'ailleurs, moi, quand je vais à Loche chez ma libraire, je lui dis, est-ce que tu as tel titre ? Souvent, elle me dit non, et ce n'est pas un problème. Et du coup, je commande, et donc elle va donc sur son ordinateur, et elle commande le titre, et puis je l'ai, en général, la semaine suivante, je repasse, voilà, et et ou alors elle me fait un petit paquet dans un coin et puis elle me dit tiens j'ai tes livres et voilà. Et donc il n'y a aucune différence entre les livres de l'alchimiste qui sont en POD, en impression à la demande, print on demand pour ceux qui ne sont pas initiés, donc impression et à la demande, IAD en français, et les titres d'un autre éditeur qui ne serait pas en impression à la demande, mais qui serait aussi simplement commandé par le libraire. Voilà, c'était juste une parenthèse que je voulais ouvrir. Et Mathilde, je vois que tu voulais intervenir.
Oui, non, mais tu as raison de soulever, parce que ça soulève des questions intéressantes. Ça soulève aussi, enfin, d'une part, le fait qu'en effet, une librairie ne peut pas tout avoir et n'aura jamais tout, mais qu'il y aura toujours la possibilité de commander des livres. Et ça, c'est quelque chose, un peu comme le prix unique du livre, qui est encore à défendre et encore à dire, ça existe. Et en fait, sur Amazon, pour ne pas le citer, ce sera exactement la même chose en fait. Enfin, nous, on peut commander, une librairie peut avoir un livre en 3-4 jours et peut avoir quasiment tous les livres qui sont disponibles. Donc en fait, c'est vraiment aussi quelque chose de, encore une fois, de psychologique et aussi de pédagogique à faire. Enfin, c'est rentrer dans une librairie. Certes, il faut un certain capital culturel, symbolique, économique, etc. Mais c'est... Enfin, on aura les mêmes produits que sur les plateformes qui essayent de faire croire parfois autrement. Et d'autre part, ce que tu dis sur l'impression à la demande, c'est aussi très intéressant parce que du coup, comme je disais, à l'association, on n'est pas là pour donner des solutions, de dire il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça, mais plus pour dire, tiens, il y a des choses, encore une fois, qui se passent autrement, elles sont intéressantes, allons regarder un peu plus près pour voir si ça ne peut pas être une manière, en fait, de fonctionner. Et je rebondis, si tu veux bien, par rapport aux écofictions dont tu parlais tout à l'heure. Les écofictions, c'est quelque chose qui est très lié à l'association et à sa création dès le début, étant donné que c'est vraiment des manières d'imaginer l'avenir du livre dans un avenir post-pétrole, où on n'aurait pas les moyens en fait de pouvoir fonctionner comme aujourd'hui. Des choses n'existeraient plus telles qu'elles sont. Et donc, c'est d'imaginer d'autres moyens de produire, peut-être, encore le livre, de le faire circuler, de l'imaginer autrement. Et sauf qu'aujourd'hui, il y a déjà des choses qui sont faites, en fait, justement, pour fonctionner autrement. Mmh, ça peut être l'impression à la demande, ça peut être de jauger tes tirages, ça peut être de se dire, tiens, est-ce que ce livre-là, j'ai vraiment envie de le faire ou pas? Est-ce que j'ai pas envie de faire finalement autrement ou de faire une collaboration avec quelqu'un d'autre? Voilà. Et donc, en fait, c'est pas tellement dystopique, en fait. Il y a déjà des choses qui sont en cours. Et du coup, l'idée aussi de l'association, c'est de pouvoir les mettre à jour. Et là, on est en train de travailler. Alors, c'est un projet un peu dense, mais justement sur une cartographie des initiatives qui serait un peu un recensement. Alors, plus ou moins exhaustif, puisque c'est très compliqué, mais de ce qui se fait aujourd'hui en France, sur les territoires, un peu partout, de manière alternative. Et de montrer, en fait, que bah, en fait, tout ce qui se fait, déjà, complètement la légitimité d'exister, et surtout, existe. Enfin, il y a des choses qui fonctionnent. Et ça...
Oui. Et c'est vraiment intéressant parce que, alors c'est pour ça que ça s'appelle Géométrie du réel, le podcast, c'est cette idée de voir les choses sous différents angles et de voir qu'effectivement il y a une multiplicité d'alternatives, de propositions, d'idées, et que comme, alors c'est en ça que l'Association pour l'écologie du livre est absolument géniale, c'est que c'est interprofessionnel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une discussion, une mise en commun, de réflexion, de possibilités, etc. Et ça, c'est vraiment... Et puis le livre en lui-même, effectivement, par le biais des écofictions, propose tout un tas de chemins et de réflexions. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. J'invite le lecteur, évidemment, à se procurer le livre. Et je voulais juste aussi dire que... il y a une espèce d'opposition apparente entre industrie et artisan, c'est-à-dire que moi, aux éditions de l'Alchimiste, je nous considère comme des artisans, c'est-à-dire un petit peu, vous savez, comme on dit, local, de saison, etc., pour l'écologie, pour, par exemple, je sais pas, pour les fruits et légumes, voilà, c'est quelque chose que nous, personnellement, intimement, c'est quelque chose qu'on aime même faire, voilà, entretenir des producteurs locaux, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais par exemple, en nous associant, nous, à Hachette, on a fait un double choix, une espèce de choix à deux vitesses, parce que pour survivre dans la raison économique, pour le coup, qui n'est pas forcément opposée à la raison écologique, d'ailleurs, parce qu'un artisan, par exemple, s'il va faire, un artisan qui travaille du bois, il va faire un banc de telle manière, peut-être qu'il va en produire 10 dans l'année, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, évidemment, mais il va quand même faire quelque chose, il va produire pour que ça se vende et pour qu'il ait quelque chose en retour, comme un boulanger. Mais c'est pas pour autant qu'il va faire de l'industrie. Mais la raison économique est quand même présente. Voilà, donc c'est cette réflexion-là. Et je pense que ça demanderait presque un podcast encore entier. Et je vois que Georgia, tu veux intervenir. Vas-y. Ah, ton micro.
Oui, merci. Au sujet des logiques économiques, je pense que quand on parle de ce qui différencie l'industrie et l'artisanat, c'est une façon de travailler, c'est sûr. Mais c'est sûr aussi que l'industrie peut s'améliorer, évidemment. D'ailleurs, si une grande structure choisit de faire un meilleur choix à tel ou tel niveau, ça aura un impact plus grand. Ce qui bloque peut-être, c'est justement au niveau des logiques financières, parce qu'il y a des maisons d'édition qui sont financiarisées, c'est-à-dire qui appartiennent à des groupes qui sont sur la bourse. Et donc, il y a une très forte pression d'augmentation année sur année de la rentabilité et du profit. Donc, une structure artisanale, c'est comme tu dis, c'est comme un boulanger, c'est comme un fabricant local. Notre but, c'est de produire ce qu'on aime et de se nourrir à la fin du mois et peut-être un jour d'engager un apprenti. C'est pas les mêmes logiques que c'est logique sur la bourse où il faut croître 2 ou 3 ou 4 % par an, année sur année. Et donc, on finit par quelque chose qui s'inscrit pleinement dans les limites à la croissance. C'est-à-dire que la planète est limitée, la croissance ne peut pas être illimitée.
Oui, bien sûr. Et c'est d'autant plus pertinent que... il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que par exemple la POD, pour reprendre l'exemple qu'on connaît, n'est pas du tout la même, l'impression à la demande donc n'est pas du tout la même que celle d'il y a 10 ans, par exemple. Donc la technologie, la technicité a tellement progressé, donc et elle est dans les mains du groupe Hachette et du groupe Lightning Source France, qui est en fait une filiale du groupe Ingram, le géant américain. Donc ça rend possible ce qui se passe, parce qu'il y a eu énormément d'argent qui a été mis là-dedans par ces grands groupes, et en même temps, ça nous permet à nous, qui sommes tout petits, de pouvoir proposer une alternative à notre niveau. Et ce sera peut-être le mot de la fin, parce que je vois qu'on a déjà pas mal discuté. Ça mériterait encore peut-être un autre épisode. Georgia, tu voulais intervenir, oui.
Oui, juste pour dire que parfois, il faut beaucoup de moyens pour faire quelque chose comme ça, en effet. Et parfois, avoir une structure plus grande, ça permet de faire des économies aussi d'énergie, etc. Donc, on n'est pas du tout là pour faire une division manichéenne, mais plutôt, comme dit Mathilde, pour sensibiliser et également peut-être un petit mot aussi. L'association donne des formations, participe à des interventions dans des festivals, etc. Mais ce n'était pas notre but au début. Ce sont des invitations qu'on a reçues de façon spontanée, et ça veut bien dire qu'il y a de l'intérêt pour ces enjeux à plusieurs niveaux, dans différents corps de métier, et donc qu'il y a encore des discussions à avoir, des actions à imaginer, des choses à mettre en place. On est au début du projet.
Ok. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi, Georgia. Mathilde, un petit mot pour la fin, qu'est-ce que tu...
Oui, bah, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Georgia, c'est exactement ça. Et voilà, si jamais ça vous intéresse du coup de suivre un peu aussi nous ce qu'on fait à l'association, du coup on a un site internet qui existe, qui va être refait d'ailleurs, et qui va être refait pour être aussi un centre de ressources un peu virtuel pour le coup, mais pour pouvoir justement faire part de toutes les productions qui sont actuellement en cours sur ces questions d'écologie du livre de manière du coup très large. Donc il y a déjà des choses, si vous voulez retrouver un peu des liens sur des choses dont on a parlé, on a aussi une bibliographie qui est sur notre site de ressources déjà présente. Et sinon vous pouvez aussi, voilà, si ça vous intéresse d'adhérer à l'association, vous poser des questions, vous pouvez aussi nous écrire et on est aussi voilà, on répondra le mieux qu'on pourra. Oui. Et mais merci beaucoup et c'était très chouette. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, puisque pour nous l'écologie du livre, ce n'est pas seulement la partie juste écologie et fabrication, mais ça recoupe aussi la partie sociale, symbolique, donc c'est très très large et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire.
Ben effectivement, ben on refera sans doute un autre épisode en complétant un petit peu tout ce qu'on a dit. En tout cas, comme d'habitude, je mettrai en description du podcast. Alors, selon la plateforme où vous serez, faudra peut-être regarder en dessous. En tout cas, je mettrai le lien vers le livre et vers les éditions Wild Project. Je mettrai aussi effectivement le lien vers l'association pour l'écologie du livre. Si vous avez, Mathilde ou Georgia, des petits liens vers des études. Alors, l'étude du basique, je crois que j'ai encore le lien, mais tout à l'heure, tu parlais du WWF, on pourra mettre ça aussi pour que, voilà, le lecteur et l'auditeur puissent se faire une idée de toutes ces questions et puis, évidemment, contacter l'Association pour l'écologie du livre, voilà, adhérer, évidemment, je plus sois, puisque nous sommes aussi adhérents. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Georgia, merci beaucoup, Mathilde. C'était vraiment un super podcast passionnant. Il y a encore plein de sujets qu'on n'a pas abordés, comme le greenwashing, comme je sais pas, tout un tas de sujets. Bref, en tout cas, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Allez, merci. Salut à tous.
Merci Lionel.
Salut.